Eh bien bonjour, bienvenue à Aime l'été, mercredi 2 août. J'espère que vous passez jusqu'ici une belle saison estivale. Hein. C'est un plaisir de vous retrouver ce midi. Une heure de belles rencontres et de sujets fort intéressants. Des événements qui nous reviennent chaque année, qui font rayonner Montréal pour cette ouverture sur la communauté LGBTQ+. Également des jeux et des activités en pleine effervescence au Québec, accessibles à tous, mais... Parlant d'accessibilité, il sera question d'accessibilité universelle, un enjeu important, mais aussi des séries télé qui s'intéressent aux personnes en situation de handicap. Alors, c'est l'occasion, au cours de la prochaine heure, de se pencher sur tout ça avec nos chroniqueurs et invités. C'est Aime l'été! Et plus précisément au menu de l'heure qui va suivre, une activité qui se joue même en fauteuil roulant, le pickleball, qui compte beaucoup d'adeptes chez les personnes plus âgées, mais aussi chez les personnes en fauteuil roulant. J'en discute avec Serge Collin, qui a lancé l'activité du para-pickleball. Aussi, notre chroniqueuse Élisane Pellerin vient nous parler aujourd'hui d'une série télé qui traite de handicap. Il sera question, comme je le disais, d'accessibilité universelle, mais d'abord, je rencontre dans un instant Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, 17e édition. Cette année, alors soyez des nôtres au cours de la prochaine heure. Voici Aime l'été.
La couleur Autobahn.
Et je reçois à l'instant Simon Gamache, effectivement, président, enfin directeur de cette fierté Montréal, en fait, de toutes ces activités qui s'en viennent au cours des prochaines semaines, enfin des prochains jours. Bonjour Simon.
Bonjour Chantal.
Bon Simon, on ne se le cachera pas, ça a été, on en parlait hors d'onde justement, on a parlé de cette année absolument rocambolesque, enfin on sait ce qui s'est passé l'an passé, et puis vous étiez Simon en poste depuis un an déjà l'an passé, alors évidemment j'ai pensé à vous parce qu'on avait, on s'était parlé nous pour la fierté de l'an dernier, et puis j'ai pensé à vous le matin du fameux défilé qui a dû être annulé, alors évidemment de l'eau a coulé sous les ponts, et puis on a réussi à savoir ce qui s'était passé. Parce que ça n'a pas été facile. Hein?
Non, ça n'a pas été facile. Et puis ce matin-là, c'était pas clair pour personne, incluant moi-même qui était au cœur de tout ça. Puis il y a eu une enquête. C'est Philippe Schnob. Philippe Schnob a fait une enquête qui a été une bonne chose pour nous. Mais ça lui a pris 100 heures d'entrevue pour comprendre ce qui est arrivé. Mais il y a eu des problèmes de communication. On a beaucoup parlé du problème de bénévoles qui était absolument réel. Mais aussi, il y avait un problème de communication. Si on avait une meilleure chaîne de communication à l'interne, probablement qu'on aurait pu livrer le défilé malgré tout. Mais c'est ça. Mais tout ça nous a forcé à revoir nos systèmes à l'interne, nos fonctionnements à l'interne. Fierté Montréal a été créée en 2007. A évolué a cru de manière assez organique et a vécu une très grande croissance de 2017 à 2019.
En effet.
Et sans vraiment d'ajustement sur les mécanismes internes, est arrivé 2020, la pandémie, plein de choses qui sont passées. Moi, j'arrive en 2021 et j'ai repris l'organisation à ce moment-là. Et rapidement, je fais OK, il faut vraiment adapter l'organisation. Pourquoi est-ce qu'on en est rendu? Et il ne faut pas oublier que Fierté Montréal s'est rendu un très, très grand festival montréalais. Ça rentre dans la logique des festivals montréalais. C'est une fierté, c'est autre chose, mais il y a des attentes, une manière de faire des fonds, de faire des festivals, de gérer la production, les opérations d'un festival, et c'est les ajustements qu'on a fait dans la dernière année.
C'est ça. Donc, alors tout c'est résolu. Enfin, finalement, un mal pour un bien, mais n'empêche que, comme ça attire énormément de touristes, alors ça a été une déception très grande l'an passé, et puis il fallait ramener tout ce monde-là cette année. Puis alors on a finalement, on s'aligne pour une année record, à vrai dire. Cette croissance dont vous avez été victime, au fond, dans la dernière année, et puis, dans les dernières années. Alors, c'est sûr que là, tout est en transformation, à tel point que vous avez aussi quitté, comme tel, le village qui était traditionnellement l'endroit de référence, le lieu de rendez-vous. Ouais. Mais là, ça a explosé. Donc, vous allez maintenant du côté du Parc olympique.
Pour le Parc olympique, pour les grands
événements.
Parce qu'on est encore très présent dans le village.
Les activités, les organismes, entre autres.
Demain soir, le 3 août, on commence le festival au Jardin Gamelin. On est 4 soirs au Jardin Gamelin. Programmation de 17h à 23h, c'est complètement gratuit, évidemment. Très présent dans le village cette année. J'aurais peut-être même plus que l'année passée. La raison pour laquelle les grands événements ne sont plus là, c'est qu'on était rendu en 2019, on voyait le potentiel d'avoir plus de 20 000 personnes aux événements et ça ne rentrait plus dans aucun endroit autour du village. Et là, il y avait des enjeux de sécurité. Il fallait trouver un nouvel endroit, on a fait une évaluation et on a décidé d'aller vers le Parc olympique qui est à 9 minutes en métro du village. C'est la meilleure navette en ville, là. Des fois, les gens me parlent, il faut mettre une navette en place. La navette, elle existe, et c'est le métro. Il n'y a pas de connorage en métro. Donc ça, c'est très bien, on l'a fait. La croissance en tant que telle, ce qui est intéressant cette année, quand on parle de, on s'attend à un record, pour l'instant, le seul indicateur qu'on a, c'est le défilé. Parce qu'on fait plus qu'un défilé, on est un grand festival qui dure 11 jours. Le défilé, présentement, ça fonctionne par inscription. Les personnes qui sont dans la rue sont inscrites, ce sont des organisations qui s'inscrivent. On a plus de 180 organisations inscrites cette année, ce qui représente plus de 15 000 marcheurs et marcheuses. L'année passée, on attendait 12 500 marcheurs et marcheuses. C'est intéressant de voir, et je pense que ça met en lumière ce que nous, on a vécu comme organisation depuis la crise de l'été passé. Ce moment-là a été un éveil, je pense, pour tout le monde, dire « OK, c'est très important le défilé ». Pour nous, ça a été un éveil, c'est comme « OK, nous, on ne peut pas se replanter. Nous, on a un travail à faire interne, à l'interne, pour s'assurer que ça tout fonctionne, mais aussi les communautés, les alliés se sont dit « OK, la fierté, là, c'est important ». Et là, on le voit, c'est tangible dans les inscriptions défilés, plus que jamais. Et aussi, il n'y a pas seulement le défilé. Les deux journées avant le défilé, on a ce qu'on appelle les journées communautaires dans le village, 11 et 12 août. C'est fulgurant. Dans le passé, on faisait une journée. On est passé à deux journées et on avait prévu avoir une centaine de kiosques. Et là, on a dû augmenter. On est à 120 kiosques par jour. C'est vraiment énorme. On était plus autour de 50 il y a quelques années. On est rendu à 120 fois deux jours.
Oui.
C'est vraiment gigantesque.
Ça veut dire aussi qu'il y a plus d'organismes, en principe, qui travaillent avec cette communauté-là. Et il y a de plus en plus de besoins.
Il y en a beaucoup.
Et puis d'ailleurs, ben, on pense au village, là. Ben, oui. On l'appelle comme ça encore, mais je veux dire, bon, c'est... Mais il y a des transformations aussi au niveau du village.
Oui.
Bien sûr, on parle d'une clientèle qui est évidemment une cohabitation qui n'est pas facile.
Oui.
Alors, il y a toutes sortes d'enjeux là, qui se sont ajoutés aussi. Alors, plus d'organismes également qui travaillent dans la rue.
Ben, il y a beaucoup, c'est ça. Les organismes font de tout. Hein. Les organismes avec lesquels on travaille, cette année, j'en viens pas moi-même, mais d'une manière ou d'une autre, on travaille avec plus de 180 organismes LGBTQ au Québec.
Oui,
oui il y en a tant
même,
que ça.
Ben, oui.
Il y en a tant que ça. Dans la journée communautaire, on va en avoir 140 au total répartis sur deux journées. Il y a aussi des organisations alliées qui sont aussi présentes. Pour le village, je pense qu'on amène quelque chose d'intéressant. Oui, c'est pas facile dans le village présentement. On ne se met pas la tête dans le sable. Et là, présentement, ce qu'on sent, ben, on entend beaucoup dans les médias un discours assez négatif, misérabiliste.
Oui, c'est ça.
Mais ce n'est pas nécessairement ce qui se passe présentement. Les personnes ont... Le secteur économique, le secteur politique, le secteur communautaire, la santé publique, les organismes culturels comme nous, on essaie d'arriver à travailler ensemble. Puis c'est la seule manière qu'on peut un peu solutionner le village puis repenser le village pour le futur. Avec les organismes communautaires, ce qui est intéressant, c'est que nous, Fierté Montréal, nous, on ne fait pas de l'intervention. On est un festival. Nous, on a une plateforme pour tout ça, ce qui est formidable.
Mais vous permettez aux gens de rayonner à travers vous, finalement. Puis c'est comme ça, vous allez trouver avec eux des solutions aussi pour amener peut-être un quartier qui est en transformation, mais vous allez y contribuer en quelque sorte.
Tout à fait. Et cette année, justement, dans le cadre des journées communautaires, je parlais tout à l'heure, c'est ça qu'on va voir. On va le voir en live. On va voir des organismes communautaires qui font l'intervention à l'année longue et là, qui sont toutes là. Elles sont toutes là en même temps. C'est sûr que c'est pas possible que le village ait toujours 140 organismes communautaires en même temps, mais il y en a déjà beaucoup qui sont là. Fait que toute personne vous dire « Oh, je suis pas sûr d'aller dans le village », c'est sûr que je vous dirais « Bon, calmez-vous, n'écoutez pas seulement tout ce qu'on entend dans le négatif », mais pendant le cadre de Fierté Montréal, c'est peut-être le meilleur moment de venir parce que l'intervention est là, naturellement.
Tout à fait. Donc, c'est un espace aussi, Fierté Montréal offre un espace sécurisé, sécurisant, accueillant. Cette année, d'ailleurs, c'est drôle parce que, je voyais un article aussi, c'est-à-dire j'ai entendu vos interventions à l'effet que le SPVM ne va pas nécessairement participer là, comme tel activement.
Oui.
Cette année, parce que, effectivement, des préjugés, finalement, c'est un petit peu plus difficile, la cohabitation avec parfois certaines communautés.
C'est aussi complexe, rapidement.
C'est complexe,
oui. C'est pas propre à Fierté Montréal. Toutes les grandes fiertés dans le monde, on a cet enjeu-là. On parle ici de l'absence des policiers policières dans le défilé, de l'absence des policiers policières LGBTQ. Et c'est pas nouveau, là. C'est partout sur la planète. Et à Fierté Montréal, depuis que ça existe, on n'a jamais eu cette présence-là dans le défilé. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à la base, Fierté Montréal, on travaille bien avec le SPVM. On travaille bien pour les aspects opérationnels de tout le festival.
Mm-hmm.
On ne peut pas livrer un festival sans travailler avec les forces policières. Et là, on s'est dit, OK, partons de ça, puis établissons un dialogue. Écoutons-nous. Et puis, c'est ça, le directeur du SPVM, M. Daguerre, l'a dit. Donc, ils sont à l'écoute, ils veulent vraiment porter attention. C'est pas facile, mais je suis fier de ça. Je suis très fier de ça. Plutôt que d'éviter le sujet, on dit rentrons dedans, parlons-en.
Allons-y. C'est ça.
Puis ça va prendre, c'est ça. Puis ce que M. Daguerre a dit, c'est on parle de plus de formation continue pour les policiers et policières, donc avoir une meilleure compréhension des enjeux des communautés. Et ça, ils veulent le faire par le biais de ces programmes de formation continue sur lesquels ils travaillent.
En tout cas, fort heureusement, vous avez des partenaires solides qui, au moins, font en sorte que vous existez et que c'est peut-être le Fierté Montréal, c'est peut-être le plus gros dans le sens que partout dans le monde, c'est souvent des organisations bénévoles. Mais là, c'est pour ça que vous avez quand même un budget qui vous permet d'apporter vraiment toute une dimension, beaucoup plus importante encore à ce festival, cette Fierté Montréal. Bon, on va entrer dans le sujet là, de la programmation. Donc, on a dit que ça commençait demain.
Oui.
Il y aura présence, bien sûr, des organismes sur la rue Sainte-Catherine. Mais évidemment, il y a tout un volet très festif là, qui
tout
s'en
à
vient.
Tout à fait. Bien, c'est un grand festival. On a plus de 150 artistes dans le festival. Artistes majeurs, 95% issus des communautés de SLGBTQIA+. Et aussi, plus de 60%, ce sont des artistes, des personnes racisées. Et ça, c'est très important parce qu'on est Fierté Montréal. On représente Montréal. Et Montréal, c'est ça aujourd'hui. Et là, les artistes queer sont issus des communautés culturelles aussi. Fait que ça, on est très fiers de ça. Donc, demain, on commence dans le village avec les communautés, là, les communautés autochtones qui vont ouvrir le festival. Notre acronyme qu'on utilise, c'est 2S. Ça, c'est pour les personnes bispirituelles.
Oui, c'est sûr.
Alors,
oui,
on est cohérent. c'est les personnes autochtones qui vont commencer le festival. Donc, on est dans le village beaucoup. Et super programmation. On travaille beaucoup avec des collectifs qui font des choses à l'année, des collectifs queer qui font des choses à l'année. Et là, on dit, OK, amplifions ça. Donc, on est aussi au Club Soda, on est à la SAT, on est au National, beaucoup d'événements. On a un événement qui est presque sold out, d'ailleurs, demain, un show d'humour au National demain.
Ouais, ouais.
Je pense que presque sold out. Et la deuxième semaine, on arrive au Parc olympique là, pour les grands événements.
C'est ça. Donc, alors, bien évidemment des représentants auxquels on est habitué, bien sûr. On pense des spectacles qui sont animés par Rita Baga Barbada. Bon, ces noms qui sont de plus en plus connus. Alors, vraiment, une belle programmation. Et puis, c'est ça. Donc, le coup d'envoi, c'est demain au Jardin Gamelin. Évidemment, on s'informe sur votre site. D'ailleurs, c'est très bien fait. Puis, bon, je pense qu'on a tout le détail. Et c'est ça. Donc, en plus des journées communautaires, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles cette année là que vous avez ajoutées finalement?
Ben pas vraiment parce que
c'était déjà pas mal complet.
C'est assez gargantuesque comme programmation. Puis aussi un désir de stabilisation. L'année passée on déménageait au Parc olympique, faut s'habituer à s'approprier ce lieu là. Puis donc, je vous cacherai pas, le défilé, on a mis plus d'énergie que jamais cette année sur le défilé. Ça serait que tout se passe bien. Mais il y a quand même beaucoup de choses c'est quand même une grosse programmation. Tout est sur notre site web, évidemment.
Exactement. Et puis, gros spectacle de clôture. Bon, au moins l'année passée, on s'était rabattu sur finalement les événements qui ont eu lieu après, qui devaient avoir lieu après le défilé. Et donc, sur l'esplanade du Parc olympique. Et puis, ça va se poursuivre, effectivement, de ce côté-là aussi. Alors, vraiment, merci, Simon Gamache, d'être venu nous en parler. On aurait pu en faire, pratiquement une heure, tellement que c'est complet, qu'il y a plein de choses et puis beaucoup d'enjeux. Et bravo d'avoir tenu le fort finalement durant cette année, malgré l'adversité et puis c'est ça, des critiques qui fusaient de partout, mais vous avez gardé la tête froide et puis en tout cas bravo parce que maintenant on sait ce qui s'est passé puis ça a permis à Fierté Montréal d'évoluer, de grandir finalement.
Ben oui, puis comme dirigeant d'organisation, c'est pas dans une crise qu'il faut partir.
Non.
C'est là qu'il faut rester. C'est là la job. Et des crises, il y en a tous les jours dans des organisations, mais on n'en entend pas parler. Ça, on a entendu parler.
En tout cas, ça
fait partie du travail.
C'est de plus en plus intéressant de vous suivre. Et puis, je pense qu'en tout cas, nous, on est très, très engagés, évidemment, à Canal M, alors, dans cette communauté. Voilà. Alors, merci beaucoup, Simon Gamache, et bonne fierté, Montréal.
Merci, d'accueil. Bonne fierté à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Partout et nulle part à la fois. Fais-moi signe si tu me vois, Michel. s'habitue avec le temps quand on fait semblant. J'suis partout et nulle part à la fois. Fais-moi un signe si tu me vois. Mais j'tiens le goût, c'est pas comme si j'avais le choix. On est des millions comme moi.
On est partout et nulle part à la fois. On est partout et nulle part à la fois. On est partout et nulle part à la fois. On est partout et nulle part à la fois.
J'suis partout et nulle part à la fois. Fais-moi un signe si tu me vois.
Roxane Bruno, partout.
Eh bien voilà, on accueille maintenant Élisane Pellerin, professeure de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, qui vient toujours nous parler de sujets en lien avec le handicap, puisque, bon, elle est elle-même en fauteuil roulant. Et puis, bon, c'est une personne fort inspirante pour nous et qui nous arrive toujours avec des sujets fort intéressants. Bon, alors évidemment, c'est sûr que c'est des formations professionnelles aussi, hein. Alors, bien évidemment, intéresser à la fois les élèves, les étudiants, et puis intéresser nos auditeurs. Alors vraiment, et là, on va parler d'accessibilité, d'accord, d'accessibilité universelle, entre autres, mais on va surtout se concentrer aussi sur une belle série télé que j'ai regardée un peu vitement, mais ce qui m'a donné vraiment le goût de tout le suivre la série. Alors, Fred l'handicapé, bonjour d'abord, Élisane.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, contente de te retrouver après une semaine. C'est toujours passionnant là, de savoir bon, de quoi tu vas nous parler. Eh bien, c'est ça. Donc, tu nous parles d'une belle série. Et j'avoue, Fred l'handicapé, c'est disponible sur la plateforme Tout.tv en passant.
Oui, c'est disponible sur la plateforme Tout.tv. C'est fait par quelqu'un qui est acadien. Donc, Fred Malek, qui est un scripteur qui parle de sa propre vie. Monsieur Malek a été victime d'un accident à jeunesse, donc autour de 18 ans, juste avant son entrée à l'université. En fait, un plongeon qui a mal tourné. Et puis, dans cette série, on va voir ses défis au niveau de l'accessibilité des bâtiments, au niveau de l'accessibilité de l'université, parce que lui entrait à l'université à ce moment-là, et au niveau de son adaptation à sa nouvelle vie, il va devenir quadriplégique, lui qui n'avait aucune maladie avant. Et donc, on parle aussi d'une série qui se fait dans les années 70. Monsieur Mallet, l'accident a eu lieu dans les années 70, donc l'accessibilité universelle était vraiment à ses débuts.
À peu près inexistante, c'est sûr.
Donc, on parle, ça s'est beaucoup amélioré depuis, mais quand même, les défis demeurent les mêmes. Donc, c'est une série qui m'a bien amusée cette semaine et qui m'a fait réfléchir un peu sur ce qu'il nous reste à faire en termes d'accessibilité universelle au Québec et au Canada.
Exactement. Et puis bon, la série comme telle, ben, ça traite de façon très humoristique de tout ce qu'il a vécu finalement.
Oui, voilà.
Et je trouve ça vraiment, c'est drôle. On rigole finalement. Et puis bon, ben, en même temps, ça nous fait prendre conscience de toute tout ce changement complet de vie, ses difficultés, ses souffrances. Enfin, vraiment très intéressant. Puis et lui comme tel, c'est-à-dire que l'acteur n'est pas nécessairement handicapé lui dans son cas.
Non, l'acteur qui va le jouer, donc il y a deux acteurs qui vont jouer Fred Mallet, Antoine Michaud et David Gauthier, donc à deux périodes différentes de sa vie, mais les deux acteurs ne sont pas handicapés, donc Antoine Michaud va dire que ça l'a beaucoup ébranlé quand même de devoir jouer un personnage qui est handicapé, de comprendre à quel point la vie tous les jours peut devenir un obstacle pour les personnes comme Fred Mallet, parce que juste aller à l'épicerie, juste aller au restaurant peut devenir un grand défi quand l'endroit n'est pas adapté. Encore aujourd'hui, c'est une question qui revient pour les personnes handicapées, mais imaginez-vous dans les années 70 où c'était encore très, très, très inadapté au Québec, à Montréal et puis à Moncton où se passe la série. Donc, ça devient... On en rit, mais c'est quelque chose qui est très difficile là, pour quelqu'un du jour au lendemain de devenir quadriplégique et de devoir se réadapter et de devoir réfléchir son parcours en termes d'accessibilité. Alors qu'à l'époque, pour les personnes qui n'ont pas de problème d'accessibilité, on réfléchit en termes d'horaire ou en termes de désir, alors qu'une personne en situation de handicap doit réfléchir à son restaurant en termes d'accessibilité des toilettes.
Ouais. Et au comment, ouais. Comment je vais y arriver.
Comment je vais y aller à la salle de bain. Comment, bon. Et donc, on choisit nos restaurants en fonction de ces questions-là.
Exact.
Parce que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap n'ont pas à faire.
Non, exactement, n'ont pas à réfléchir à ça. La relation, le réalisateur, comment ça s'est passé, c'est ça, le lien avec M. Mallet, finalement?
Ben, André Roy, qui est réalisateur de série, est un ami d'enfance de Fred Mallet, donc ils se sont rencontrés pendant leurs études universitaires, ce qui donne quand même à la série quelque chose de très intime, hein, parce que André Roy et Fred Mallet sont encore de très bons amis, et André Roy a... était à côté de Fred Mallet pendant sa rééducation, pendant qu'il vivait ses péripéties-là à l'université et autour. Donc, les deux donnent un peu leur vision de ce qui s'est passé, leur vision des choses, et ça donne quelque chose de très intime.
Tout à fait. Donc, ils étaient très à l'aise, dans le fond, de collaborer ensemble. Il y a une actrice aussi qui est quadraplégique hein, dans le film,
oui,
dans la série.
Oui, il y a une actrice, effectivement, qui est quadraplégique, donc Mélanie Daprince. Qui, elle, est une vraie quadriplégique, donc qui a eu un accident de voiture en 2013, qui va jouer dans la série. On a Fred Mallet également qui va, en plus d'être scénariste, va être sur le plateau pour donner des indications au niveau technique aux acteurs qui ne sont pas en situation d'handicap pour leur dire comment se déplacer et tout ça, comment agir, en guillemets, comme une personne handicapée le ferait. Et Mélanie Daprince a aussi un peu ce rôle parce qu'elle est elle-même... comme je disais, quadriplégique suite à un accident de voiture, et elle joue un rôle, évidemment, d'une personne quadriplégique dans la série, donc on peut voir l'adaptation ici au niveau d'une personne en situation de handicap qui a pu avoir un rôle d'actrice, ce qui est quand même rare, généralement on confie ces rôles-là à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, donc je trouvais ça intéressant de le mentionner parce qu'on parle d'accessibilité et on parle d'inclusion, et ça c'est une belle preuve d'inclusion.
Exactement. Puis bon, elle a tout un parcours aussi, hein, cette jeune. D'abord, c'est un peu. C'est une activiste en même temps.
Oui. Mélanie Daprince, qui a un peu un parcours semblable au mien, c'est-à-dire qu'elle est politologue comme moi. Elle a fait des études en sciences politiques. Et elle est présidente de la FECUM, donc la Fédération des étudiants et étudiants du Centre universitaire de Moncton. C'est elle qui va s'assurer du bien-être des étudiants et de faire le lien entre la fédération et les étudiants qui sont à l'intérieur de cette fédération-là. Donc, c'est quelqu'un qui est très important dans le milieu universitaire et qui est aussi très, très engagé au niveau de l'accessibilité universelle, mais plus largement au niveau
exactement.
Du féminisme.
Alors, bon, ben, on en parle justement. On continue là-dessus après la pause.
Oui.
Élisane, à tout de suite.
Vous écoutez Aime l'été.
De retour avec Élisane Pellerin qui nous parle, qui nous parlait de cette série Fred l'handicapé et dans lequel on retrouve entre autres Mélinda Prince, une actrice quadraplégique, hein, et on parlait d'elle justement juste avant la pause. Et elle s'est beaucoup impliquée au niveau de l'accessibilité universelle. Ça a été vraiment son combat, son champ de bataille, si on veut.
Oui. Comme je le disais, un de ses champs de bataille, parce que c'est une féministe quand même aussi très, très présente sur les réseaux sociaux, qui défend aussi la cause des femmes en général, mais forcément aussi s'est intéressée à l'accessibilité universelle, parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand on est en situation de handicap, ça devient quelque chose auquel on pense à tous les jours. Hein, on peut pas sortir de la maison sans y penser. Tout est fait en fonction de l'accessibilité des lieux dans lesquels on va. Donc,
puis l'accessibilité universelle, qu'est-ce que c'est, justement, précisément?
Donc, accessibilité universelle, en fait, c'est de faire en sorte qu'on enlève les obstacles au niveau de l'environnement pour que les gens puissent avoir accès à toutes les ressources de la société. Okay? Donc, c'est vraiment le fait d'accéder aux services et d'accéder aux mêmes droits que les autres personnes par le biais de l'environnement qui est adéquat pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment le fait d'enlever ce qui pourrait nuire à l'accessibilité des ressources au niveau de la société, donc au niveau de tous les services publics, mais aussi au niveau de tous les services de loisirs, parce que c'est un droit aussi d'avoir accès aux loisirs. Donc, c'est comme ça qu'accessibilité universelle a été pensée. Donc, le fait d'enlever les obstacles aux droits des personnes en situation de handicap.
Oui, parce que c'est ça, on peut dire que oui, maintenant, il y a des gens aussi qui travaillent au niveau du droit, et puis oui, c'est un droit. Et puis bon, là, bon, l'accessibilité universelle, ça commence dès la conception, finalement, d'un immeuble, exemple. Et puis je pense que maintenant, les architectes, enfin, les gens qui... les constructeurs, les entrepreneurs sont de plus en plus sensibilisés, mais il y a encore du chemin à faire. Au lieu de construire un escalier, pourquoi pas aménager une rampe, par exemple, qui pourra éventuellement faciliter les déplacements pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant, parce que ça peut arriver à n'importe qui. On achète une maison, là, on n'a que des escaliers. Ben, qu'est-ce qu'on fait s'il nous arrive un problème, là, je veux dire, on devient handicapé comme ça du jour au lendemain, ben, c'est pas plus difficile, finalement, dans le fond, de le concevoir à la base.
Il y a aussi, comme tu le disais, là, quand même, il y a beaucoup de travail à faire. Ça devrait être un enjeu qui est réfléchi à la base. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein? On se rend compte que finalement, les bâtiments n'ont pas été réfléchis de cette façon-là, mais en tous les cas, l'accessibilité universelle, c'est quelque chose qui est arrivé autour des années 1978, donc avec la loi sur l'exercice des droits des personnes en situation de handicap, la loi qui a été mise sur pied par le gouvernement René Lévesque à l'époque, donc qui disait justement que les personnes en situation de handicap avaient des droits et qu'il fallait les respecter, et que ça passait par un environnement qui était adéquat à ces gens-là. Donc, ce que ça veut dire, concrètement, cette loi-là disait que les établissements gouvernementaux devaient être complètement adaptés. Et encore aujourd'hui, on voit des choses un peu aberrantes, mais dans 95% des cas, ça a quand même été bien adapté. Hein. Les hôpitaux, les CSC, tout ça, on voit quand même des rampes d'accès, des portes automatiques et tout. Et donc, ça vient de cette loi-là. Et bien sûr, on essaie de pousser aussi au niveau d'adaptation des édifices non gouvernementaux, donc je le disais, des édifices de loisirs, par exemple, de demander aux compagnies privées de mettre la main à la pâte et de leur donner des outils pour réfléchir en termes d'accessibilité universelle.
Non, c'est ça. Donc, c'est un enjeu très important. Puis, on disait, il y a du chemin à faire. Donc, vraiment, alors, cette dame, Melinda Prince, finalement, a travaillé très fort aussi dans ce sens-là pour celle qu'on voit dans la série, là, Fred l'handicapé. Donc, beaucoup de gens qui sont quand même, qui travaillent fort. Et puis, des gens comme toi aussi, n'est-ce pas, Élisane?
Oui, on y travaille. Puis, ouais. Tu sais, la loi de 1978, il faut dire qu'on va ajouter dans l'article 10 de la Charte des droits et libertés qu'on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un sur la base de son handicap ou sur la base des outils qu'il utilise pour pallier son handicap. Donc ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un qui a un fauteuil roulant d'accéder à un immeuble parce qu'il est en fauteuil roulant. Donc il faut lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse accéder à un immeuble même s'il est en fauteuil roulant.
Je comprends.
C'est la même chose au niveau de l'article 10 pour les chiens d'assistance, par exemple. Mon chien d'assistance était reconnu comme étant un moyen de pallier son handicap. Donc, on ne peut pas plus refuser un chien d'assistance au même titre qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un, évidemment, de prendre son fauteuil roulant à l'intérieur d'un édifice. Au niveau de la loi, c'est la même chose. Donc, le chien et le fauteuil roulant deviennent équivalents au niveau de la loi. Donc, ni un ni l'autre ne peut être refusé et on ne peut pas mettre d'obstacle à leur utilisation dans les endroits publics. Donc, c'est à partir de tout ça qu'on conçoit l'accessibilité universelle. Donc, d'enlever les obstacles parce que ces gens-là ont le droit d'avoir des cannes, des marcheurs, des ambulateurs, des fauteuils roulants et on ne peut pas donc avoir un obstacle physique qui les empêche d'accéder à un endroit public.
Exactement. Bon, heureusement d'ailleurs que, bon, on a mis en place toutes ces lois et tout, bon, pour forcer finalement les gens à d'abord prendre conscience aussi de ces problèmes-là, puis aussi de rendre les lieux plus accessibles. Évidemment, on pense à des édifices publics, ça va de soi, mais bon, c'est autre chose pour ce qui est du parc immobilier, là. C'est d'autres défis.
Oui, bon, avec la crise du logement, on pourrait en reparler
ben,
très
c'est
longtemps.
Ça, ça, c'est autre chose. Hein.
Si les personnes en situation de non-handicap ont de la difficulté à se loger, imaginez les gens comme moi, quand en plus, évidemment, de penser au loyer, de penser à notre budget, de penser au nombre de stationnements, il faut aussi penser à avoir un ascenseur.
Exactement.
Et avoir des portes automatiques. Ça réduit vraiment les recherches sur Internet. Là. Donc, ça devient très, très difficile pour nous de se loger.
Oui.
Bien sûr, on essaie d'en parier, puis il y a plusieurs activistes, je parlais de Minute de Prince, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres activistes en ce moment qui parlent dans les médias pour essayer de faire rendre compte que finalement, la crise des logements, les problèmes au niveau de la crise économique et tout ça, ça touche les personnes sans handicap, qu'il ne faut pas les oublier. Hein. Si c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas d'handicap, imaginez à quel point ça devient difficile pour les personnes qui ont des handicaps.
Ben, je comprends. Puis quand on pense à notre parc immobilier ici à Montréal, bien sûr, bon, ça fait partie de notre patrimoine, hein, ses logements avec ses escaliers extérieurs. Mais bon, ça veut dire qu'il y en a, il y a beaucoup de logements comme ça. Et bien, ce sont des logements, bien sûr, que les personnes à mobilité réduite ne peuvent pratiquement pas avoir, à moins d'avoir un rez-de-chaussée.
C'est difficile quand on a une canne ou une marchette de descendre dans ces marches-là en plein hiver à moins 30 quand c'est un petit peu glacé. Hein.
Oui.
Je pourrais vous en parler longtemps. Là.
C'est ça. Et puis, avec une population qui vieillit de toute
avec
façon.
Avec une population qui vieillit aussi, hein, on peut. Voilà, on pourrait faire une thérapie collective là, sur ce sujet-là.
C'est bon.
C'est un peu compliqué en hiver, ouais. avec la neige, la glace et tout ça. Là.
Déjà, nos trottoirs, oui, c'est...
Oui, déjà, les trottoirs, aussi, on pourrait en parier. Mais imaginez, les trottoirs et les marches, avec un épicerie dans les mains, c'est fabuleux.
Oui, c'est
fabuleux,
vraiment fabuleux, tout à fait. Alors, au moins, on a quand même réglé une partie là, pour les trottoirs, du moins pour les coins de rue.
On y travaille,
on a fait des efforts. Mais en tout cas, alors, merci pour nous avoir fait découvrir cette belle série qu'on peut toujours consulter, Fred l'handicapé. Vraiment, c'est fait de façon très fine avec de l'humour, mais enfin, vraiment, c'est tous les enjeux sont réunis quand
c'est
même dans cette série.
C'est une très belle série, c'est très court et puis donc, ouais. Je vous invite à aller voir ça là, pendant votre été, pendant vos vacances. Là, c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir, mais en même temps, bien vous faire rire aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Il y avait quand même une autre série québécoise, on pourra y revenir cette fois. La série Audrey est revenue, ça aussi, c'est une autre belle série.
Oui, c'était une série québécoise qui est un peu dans le même style. Donc, Audrey qui revient d'un coma de 10 ans et qui revient, elle aussi, quadriplégique suite à un accident, elle s'est fait heurter par une voiture. Et donc, c'est un peu dans la même vision des choses, fait par une Québécoise cette fois-ci. Donc, c'est aussi quelque chose qui est disponible sur Club Illico. Si vous voulez écouter les deux séries, je les ai écoutées moi-même, puis c'est deux séries qui valent le détour. Là.
Ah oui, vraiment. Alors, et interprété magistralement dans les deux cas,
oui.
D'ailleurs, tant pour Audrey est revenu que Fred l'handicapé. Alors, une belle distribution, vraiment. Merci, et puis bon, ça m'a fait passer du bon temps, Élisane, et puis en tout cas, je suis toujours contente, ben, j'ai bien hâte de te retrouver la semaine prochaine, et puis ben, merci pour ta belle chronique.
À la semaine prochaine.
Merci, au revoir. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my
because you brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
And I need to go on,
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
We are the champions, we are the champions, losers, we are the champions of the world.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
Oh, we are the champions.
We are the champions, Queen.
Eh bien oui, alors on accueille maintenant Serge Collin qui va nous parler d'un sport que je ne connaissais pas, j'avoue. Et pourtant, c'est joué par bon nombre de gens. Là, ben, c'est de plus en plus populaire, le pickleball. Bonjour Serge Collin.
Ben bonjour, Mme Lavoie.
Bon, alors effectivement, j'avoue que j'étais pas vraiment au fait de ce sport. Et puis on me dit, à chaque fois que j'en parle, ben oui, c'est tout le monde joue à ça, là, c'est fou. Il y a une espèce de... c'est un sport en pleine ascension. Les personnes d'un certain âge qui jouent à ça, c'est partout là dans le monde, aux États-Unis. Oui. Enfin bon, j'ai des chiffres là-dessus, là, c'est vraiment quelque chose. Donc, bon, depuis quand vous vous intéressez à ce sport, d'abord? Bon, d'abord, faut dire que vous êtes intéressé à ce sport, mais aussi, vous avez quand même, vous êtes vous-même en fauteuil roulant, et là, on parle de sport, en fait, de para-pickleball, parce que là, on peut jouer à la fois en fauteuil roulant, mais aussi même avec des gens qui ne sont pas du tout en fauteuil roulant, on peut mixer les deux.
Exactement, et ça, c'est la beauté de la chose, Madame Lavoie, ça, c'est la beauté de la chose, de mêler les personnes en fauteuil avec les personnes debout. Oui, oui, exactement. Et je crois que c'est un des premiers sports au monde qui le permet. C'est dans la réglementation de la Fédération de pickleball vers le Nord-Amérique, à travers même partout, partout, parce que le pickleball a commencé vraiment un peu partout à travers le monde.
Mais ça a commencé quand, ce jeu-là, d'ailleurs?
Ça vient de la Californie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait drôle le nom Pico, mais c'est le nom du chien du monsieur.
OK! Il y a toujours une raison, hein?
Oui.
Ça, on peut se demander, oui. Mais enfin, finalement, c'est aussi simple que ça.
C'est oui, ça. Exactement.
Le créateur, oui.
Le créateur, c'est un ancien joueur de tennis qui était rendu assez âgé et qu'il voulait alléger. Pour faire jouer ses petits-enfants et toute la famille. Et puis, c'est comme ça que ça a parti.
C'est ça. Donc, dans les années 60, il s'appelle Joel Pritchard, hein, je pense.
C'est bien, vous avez fait des belles recherches.
Ben oui, c'est ça. En fait, puis c'est ça, c'est vrai, il y avait son chien Pickle, à qui il demandait toujours d'aller chercher la balle lorsqu'elle tombait trop loin. Et puis, bon, alors, c'est ça. Donc, il a créé ce sport. Et puis, bon, évidemment, c'est comme on parlait tout à l'heure de droit aux personnes à mobilité réduite d'être dans la société, d'avoir de l'accessibilité. Mais pour les sports aussi, ça rejoint aussi le domaine du sport, hein, le droit de bouger, d'être une personne active, de participer à toutes sortes de sports, ben c'est ça. Donc, il a décidé de... En fait, parlez-moi de ce sport-là. Comment ça fonctionne? C'est un sport de raquette, un peu comme le tennis.
Exactement. Les règlements sont les mêmes pour nous en fauteuil que les personnes. Il y a juste deux petits règlements. Et lorsque tu es une personne en fauteuil, tu tu te dois de les relater, de l'expliquer aux personnes. Surtout quand c'est la première fois qu'ils voient une personne en fauteuil roulant. Ça prend 30 secondes de vous expliquer le changement. Comme on, nous, on a le droit de récupérer la balle après le deuxième bond.
C'est ça. Contrairement aux gens qui sont debout, là, eux autres, c'est un bond, puis vous, c'est deux bonds.
Exactement. Ça, c'est, ça se laisse à désirer. C'est juste si on, si on désire.
Ah ben oui, parce que vous faites plus habile aussi.
Oui. Oui, exactement.
Oui, vous faites c'est encore meilleur. Ouais.
Et oui. Puis, c'est ça. Mais on se doit quand même là, par courtoisie, par gentillesse, parce que les gens ne peuvent pas quand même tout apprendre des règlements. Là. Et puis, alors, c'est bien correct de l'expliquer comme ça. C'est pas ouais. long à expliquer.
Mais c'est assez facile, hein, je pense, d'expliquer que de comprendre le jeu. C'est pas, il n'y a
oui,
pas de difficulté là-dessus.
Le jeu de pickleball, vous voulez dire?
Oui.
Le jeu de pickleball est très simple et c'est un jeu peu coûteux parce que ça te demande seulement une raquette et puis des bons running shoes, là, des bons souliers quand même.
Ouais.
Les lunettes de sécurité, ils vont être obligatoires dans peu de temps. La fédération va les mettre obligatoires. Moi, je suis pour ça depuis le début. Moi, ça fait déjà 5 ans que je pratique ce merveilleux sport. Et puis, j'ai eu la malchance déjà d'en blesser 2 personnes.
Ah oui, je comprends. Parce que vous êtes, ben, quand on est en fauteuil roulant surtout, hein, c'est là que c'est le plus dangereux, j'imagine.
Non,
nécessairement?
Tu peux blesser. Non, absolument pas. Toute personne doit protéger ses yeux.
OK, mais c'est parce que quand on est plus bas, vous êtes un peu plus bas, peut-être que la balle peut arriver un petit peu plus au niveau de vos yeux. Ça peut être ça aussi, mais pas nécessairement. OK, je comprends.
Non, c'est pas nécessairement, exactement. J'ai entendu dire par la fédération là, qu'ils vont le mettre obligatoire à partir de l'automne.
OK.
Une lettre de sécurité, j'en suis bien heureux. Ouais.
C'est ça. Donc, alors un sport qui s'explique facilement, qui se joue sans trop sans trop d'équipement non plus, peu coûteux, comme je le disais, donc qui gagne en popularité, donc forcément sur les gens un peu plus âgés aussi, hein, qui sont petit peu en perte de mobilité. Faut le dire. Alors quand même, c'est facile pour eux, parce que c'est beaucoup moins intense que le tennis, on s'entend.
C'est moins demandant pour le haut du corps, pour les épaules et tout à fait. Étant donné que la raquette est plus petite, la balle est plus légère, mais c'est très rapide. C'est très rapide. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de classes. C'est pour ça qu'il y a différentes classes. 2.5, 3.0, 3.5. Mais la hiérarchie est tellement bien faite. Les gens, veut pas, sont évalués. Alors, ils sont placés dans des groupes. La structure est vraiment bien faite.
C'est ça. Donc, c'est en fait, ça se joue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, puis cette balle, justement, oui. est en plastique. Elle est en plastique creuse, hein, qui est perforée, apparemment. C'est
exact.
Ça?
Bon. Exact.
Et puis là, ben, y a le filet qui ressemble à un filet de tennis, en quelque sorte.
Oui.
Puis vous jouez ça sur une espèce de terrain un peu à l'image d'un terrain de badminton. C'est pas plus compliqué.
Exactement. Oui, dans la même voie. Exactement.
Bon.
Et puis, c'est à peu près la même... Il y a des joueurs de tennis là, qui viennent l'essayer. Là. J'ai eu la chance l'hiver passé d'en enseigner à deux. Là. Puis c'est le fun, tu sais, de pouvoir essayer d'autres sports aussi. Là. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Le badminton aussi qui viennent, qui aiment ça. Là, tu sais, que ça fait changement quand ça fait longtemps qu'ils jouent au badminton.
Alors vous avez vraiment travaillé à développer ce sport là, bon, au niveau para-pickleball, là, c'est-à-dire que pour des gens à mobilité, parce que comme on le dit, ça se pratique beaucoup là, chez des gens qui n'ont pas du tout de handicap. Alors bon, d'ailleurs, ça se développe à tel point. Vous êtes dans le secteur, je pense, de l'Estrie, ça se peut-tu?
Oui, le dimanche, dans l'Estrie. J'ai 2 terrains toujours disponibles pour les personnes en fauteuil qui veulent l'essayer. C'est sûr que je demande toujours aux personnes de me contacter avant pour que je puisse avoir une communication par téléphone avant pour voir leurs handicaps, pour voir si sont rendus où. C'est ça, c'est très important. Quelle sorte de fauteuil qu'ils ont. Parce que ça prend quand même un fauteuil sécuritaire. Ça prend quand même un fauteuil sportif.
Oui, je comprends.
Il y a ça. Exactement.
Alors, ça peut vouloir dire aussi que, bon, certains centres sportifs pourraient peut-être éventuellement... ben, évidemment, la plupart des gens en fauteuil roulant ont, bien sûr, leur propre fauteuil, ça va de soi, puis ils sont habitués avec le fauteuil, mais c'est vrai qu'il il peut y avoir des fauteuils qui sont moins adaptés à la pratique de ce genre de sport, mais peut-être qu'éventuellement, il y aura ça se développe de plus en plus, hein, la technologie à ce niveau-là, même les fauteuils, alors ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des fauteuils adaptés plus spécifiquement à cette pratique.
Oui. Ben là-dessus, on a la chance d'avoir Para-Québec qui ont des fauteuils disponibles pour les personnes qui en ont besoin.
Ah, ben c'est bien. Tant mieux, ben oui.
Alors, j'informe ces gens-là et c'est bien parce qu'ils peuvent faire l'arrangement. Ils prêtent au mois, je crois, ceux qui veulent l'essayer. Alors, ça leur donne une chance parce que s'ils veulent en acheter un, c'est assez dispendieux, tu sais, quand même. Des produits là-dedans. Hein.
Évidemment, bon, avec cet engouement là pour le sport, mais bon, parce que vous êtes dans l'Estrie, puis effectivement ça bouge. J'imagine, bon, vous avez j'imagine de plus en plus de demandes. Hein. Les gens s'y intéressent de plus en plus.
C'est relatif, Madame Lavoie. Les personnes, faut qu'elles de plus en plus de demandes, non, parce qu'on n'est pas tant dans le Québec au complet, là, en fauteuil roulant.
Je comprends.
Alors, c'est vraiment... Non.
Mais ça veut dire que c'est méconnu, peut-être même pour les gens à mobilité réduite.
Oui, aussi. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir d'accepter votre entrevue.
Oui, ben c'est ça, exactement. Ça permet de faire connaître ce sport parce que en fait, exactement. Il est pratiqué par bien des gens, bon nombre de gens parce que bon, je sais que du côté de Laval, on manque de terrain apparemment pour pratiquer ce sport, le pickleball. Laval, alors ça veut dire que puis un peu partout, on doit trouver de nouveaux lieux de plus en plus et puis on est très présent même, je pense qu'il va y avoir des on parle de compétition aussi même à l'international.
Oui, exactement. Et Laval, c'est parce que Laval, Repentigny, plus précisément, a été les premiers à nous recevoir, toute la gang de fauteuils roulants, en 2018, le premier tournoi qu'on a fait.
C'est ça, donc des tournois. Ouais. Est-ce que, bon, vous, personnellement, en avez-vous fait, ailleurs, un peu partout, que ce soit au Québec ou est-ce que vous allez à l'extérieur, est-ce que vous en faites des compétitions à l'international?
J'en ai fait une avec un ami, M. Sylvestre de Québec, et on est allé dans le sud, là j'ai un plan de mémoire, ça va m'en revenir, on est allé dans le sud
aux États-Unis,
oui,
c'est ça. Parce que ça se développe. Là aussi, ça s'est beaucoup développé, les infrastructures aux États-Unis. C'est spectaculaire, quand même.
Oui, c'était merveilleux de s'en revenir avec la médaille d'or, pareil.
Là, hey, wow!
Les Américains, là, on était très fiers de ça. Oui. Le tournoi régional Atlantique 2019, le USA.
Ah, ben c'est bravo. C'est appelé à se développer de plus en plus. Et puis, je pense qu'aussi, on est sensibilisé même dans les écoles. Ce sera pratiquement le sport de l'avenir dans les écoles.
Ben je le souhaite parce que ça fait bouger tout ton scolaire. C'est très bien comme dynamique.
Ouais.
Tu peux pas avoir mieux comme pour tes réflexes, ta concentration. Le tout. Écoutez, même moi en fauteuil, mes amis proches m'écoutaient parler de ce sport quand j'ai commencé et ils me suivaient, c'est des gens qui me suivaient dans le monde du volleyball. Et puis, je le parlais du pickleball et juste à m'écouter parler, ils sont venus l'essayer et maintenant ils pratiquent. Puis le plus beau de ça, c'est maintenant ils me donnent du temps comme bénévole. Lorsqu'on fait du développement pour les fauteuils roulants.
Ah oui.
Je trouve ça merveilleux.
Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, pour les jeunes enfants primaires, ça peut être vraiment une belle activité, ouais.
Oui, exactement. On en voit de plus en plus des jeunes. Là.
C'est ça.
On en voit de plus en plus. Oui, c'est merveilleux. C'est la vitesse qu'ils ont, là, c'est sûr, là, à 30 ans. Là.
Non, c'est évident. Mais même à ça, oui. Quand vous dites que vous pouvez réunir à la fois des gens en fauteuil roulant et des gens qui sont debout sans problème, et puis donc c'est vraiment fort intéressant d'avoir des équipes mixtes, hein?
Ah ben oui, oui. Puis ça là, écoutez, je peux pas répéter les paroles que certaines personnes m'ont dit, mais après avoir joué avec une personne en fauteuil, ça les a aidés à évoluer, si on veut.
Oui, en quelque sorte.
Ça les a fait du bien. Ouais, ça les a fait du bien, puis ils me disent, merci, Serge, vraiment, j'ai apprécié. Puis
ben c'est ça, ça permet de créer un lien qu'on n'a pas autrement, puis de ben, démystifier aussi, pour les gens qui ne sont pas à mobilité réduite, de rencontrer sur le terrain comme ça, dans le cadre d'un jeu comme celui-là, de rencontrer des gens en fauteuil roulant, puis de mieux connaître leur réalité de tous les jours, c'est vraiment intéressant aussi, c'est une belle expérience.
Oui.
Évidemment, là, oui. Le pickleball, ben là, ça s'appelle comme ça, mais on recommande, ben je sais pas si on l'applique, là, mais on parle un petit peu de tennis léger, là. On aimerait que ben, enfin, ici, bon, du moins au Québec, là, est-ce qu'on entend ce nom-là?
Vous avez pris ça, là, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Il n'y a pas de mot tennis là-dedans. Le pickle est vraiment différent.
Bon, ben, c'est peut-être l'Office de la langue française qui recommandait tennis léger, mais c'est peut-être pas approprié non plus, ouais, comme vous le dites.
On est sur là, c'est comme ils ne veulent plus qu'on appelle ça para. Ils veulent qu'on appelle ça pickleball en fauteuil roulant.
Ah, d'accord. OK. Bon, ben qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Mais en tout cas, vraiment, le pickleball en pleine ascension, mais à la fois pour tout le monde, hein, pour tous les publics, mais aussi pour les gens à mobilité réduite. On peut jouer ça facilement en fauteuil roulant. Et puis, bon, il y a des ligues. Et puis, ben vous êtes en Estrie. Et puis, bon, ben écoutez, il y a moyen de vous joindre, d'avoir des infos là-dessus?
Oui, il y a toujours moyen de me joindre. Juste à faire le site existe toujours ou pickleball en fauteuil roulant.
Pickleball en fauteuil roulant. Bon, on va tomber sur vous.
Avec mes coordonnées, mon numéro de téléphone.
C'est parfait. Serge Collin, alors ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup et merci de nous avoir parlé de ce sport. Très intéressant. Au revoir. Et puis j'en profite pour vous souhaiter une bonne journée à tous. On se retrouve demain entre midi et 13h. Aime l'été!